ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Samian, rappeur, porte-parole du Wapikoni Mobile. Il a d'ailleurs été révélé par le projet Wapikoni Mobile, dont il est porte-parole. Et Samian est devenu, en 10 ans de carrière, un porte-parole pour les Premières Nations. Un exemple pour les jeunes autochtones. On parle même de lui dans des manuels scolaires. Son univers musical a les rythmes urbains et langues algonquines. Ses textes parlent de son peuple, de la nature, de sa propre histoire. Samian est un MC, un poète, un écrivain, un acteur, un père de famille, un fils, un petit-fils et un enfant de la terre. Bonjour et bienvenue Samian, à ces gens qui font la différence. Très très heureuse de vous accueillir en studio aujourd'hui, 60 minutes. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir.
Ben, merci de l'invitation.
Alors, on va dans cette émission de l'enfance jusqu'à votre âge actuel. Et puis, bon, on en connaît un petit peu sur votre enfance parce que ça s'est passé ailleurs, pas Montréal. Mais on connaît très peu, dont avant vos 12 ans, vous êtes né où et comment ça se passait?
Eh boy, on remonte à... Écoute, je suis né à Amos, en Abitibi. Mm-hmm. J'ai grandi à Picogan, mais puis c'est ça, Picogan, Amos. Picogan, c'est qui est la réserve autochtone tout près d'Amos. Et c'est là que j'ai grandi, mais voilà, c'est là que tout a commencé, en fait.
Mais, et comment c'était vivre sur la réserve?
Écoute, c'était... J'ai peut-être l'impression que c'est une autre vie pour moi. C'est tellement loin. Je pense qu'on a sorti de cette communauté-là pour le mieux, pour l'avenir, en fait. Et pour moi, cette enfance-là reste un temps où est-ce que j'ai peut-être... où est-ce que je me suis peut-être cherché beaucoup. J'étais un enfant qui s'exprimait pas beaucoup, où on me laissait peu la chance de m'exprimer, en fait. Donc, c'était... tu sais, j'arrivais à Picogan et on me frappait parce que j'étais blanc. Et j'arrivais en ville, à Amos, et on me frappait parce que j'étais amérindien. T'sais.
OK. Donc, j'aimais bien dans chaque coin, quoi,
ouais,
finalement.
Ouais, tu sais, je suis métisse. Fait que non, ça a fait partie de ma vie, une bonne partie de mon enfance qui était quand même... C'est ce qui m'a marqué le plus, je pense, de mon enfance, de grandir... d'aller voir mon père à Amos et d'être chez ma mère à Picogan, c'était quand même deux réalités totalement différentes. Donc, j'ai grandi dans ces deux milieux-là, en fait.
Puis à l'école, je lisais dans les notes que c'était pas évident. Bon, intimidation, oui, mais il y a aussi, je pense que vous vous cherchiez, comme vous disiez, il y a une espèce de colère qui était là, qui était...
L'école, pas tant que ça, en fait.
Non.
Mais l'école, il y a eu une partie de ma vie où est-ce que... une partie de mon enfance, en fait, où est-ce que j'allais à l'école chrétienne. J'étais en famille d'accueil et j'habitais chez un pasteur, le pasteur du centre chrétien d'Amos. C'était pas une mauvaise expérience. Je sais qu'il y en a qui vont en famille d'accueil et des fois, c'est des histoires atroces. Et j'ai tellement été tombé sur une bonne famille. C'est une famille qui voulait prendre soin de moi le temps que ma mère se remette sur pied. Puis ça s'est très bien passé quand même, mais le temps que j'ai habité là, j'ai dû aller dans une école chrétienne. Et je passais, des fois je marchais ou j'arrivais, je passais devant les autres écoles et on avait des uniformes et on avait des... fait que les gens le savaient. Puis ça a été comme... Tu sais, déjà que tu te fais pas accepter parce que t'es blanc, déjà que tu te fais pas accepter parce que t'es amérindien, et là, déjà là, on t'accepte pas non plus parce que t'es chrétien. C'était comme...
C'est beaucoup, là.
C'était un mélange, ouais, ouais, c'était beaucoup.
C'est beaucoup de choses, ouais.
Ouais, ça, ouais. C'est vraiment ma période, là, je te dirais, de 7-8 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans environ, là.
Mm-hmm.
Ouais.
Et l'apprentissage, ça allait? S'asseoir sur un banc d'école...
Oui,
ça a gober fait... ce qu'on nous sert.
Ça a fait son temps. Je pense que au primaire, oui, ça a bien été. J'avais des bonnes notes. D'après les souvenirs de ma mère, en fait, j'avais des très, très, très bonnes notes à l'école primaire. Au secondaire, ça s'est un peu gâté, en fait. C'est là qu'on est parti.
C'est là, c'est le secondaire où il y avait un peu plus de turbulence que
ouais.
J'ai lu. Hein?
Ben,
pas au primaire, mais au secondaire.
Oui, quand on est arrivé quand on a quitté la communauté, on est allé vivre à Sherbrooke. On est resté okay. là pendant 4
Donc,
ans.
Donc là, c'est à quel âge? 12 ans?
Oui, 11 ans.
11 ans?
11, 12 ans, oui.
OK. Exact. Donc là, vous décidez de partir.
Oui. Ben, ma mère a décidé de nous offrir un meilleur avenir, ouais.
Votre mère, donc vous êtes très, très proche, Manon.
Oui, très proche de ma mère, ouais, oui.
On vous pose la question dans certains articles de journaux, vous dites « la femme que vous admirez le plus, c'est ma mère ».
Oui, c'est une femme très forte. C'est une femme qui a eu qui a une histoire particulière et puis justement la période où est-ce que moi et mes sœurs on a dû partir en famille d'accueil, c'est une période où est-ce que ma mère est allée en thérapie justement pour prendre du recul et être capable de s'occuper de ses trois enfants. Donc ça a été une énorme épreuve pour elle finalement de devoir faire ça, mais elle le fait vraiment pour l'amour de ses enfants et ça, je trouve ça admirable.
Et quand vous partez, c'est un petit peu vous déraciner de vos racines amérindiennes, c'est un peu de dire bon non ou pas?
Pff, du tout. Moi, je
vous,
sentez,
vous sentiez pas ça à 12 ans?
Non. Je conseille fortement à tous ceux qui vivent dans des réserves, à tous les jeunes, de quitter ce milieu-là. On n'est pas fait pour vivre dans des enclos, on n'est pas fait pour vivre sédentaire, on n'est pas fait pour ce mode de vie-là. C'est très mal, c'est très... je trouve ça ridicule de donner raison à ces gens-là qui ont bâti ce système-là, en fait.
Ouais.
Qui est un restant de génocide, finalement. Qui est la suite du génocide des Premières Nations en Amérique du Nord.
C'est fort, ce que vous dites, là.
Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui.
Ouais.
On se tue entre nous-mêmes, en fait.
Le fait d'être en réserve.
Oui, ben oui. Ouais. C'est arrivé dans les époques où les pensionnats ont fermé, où est-ce que, tu sais, ma grand-mère était... Justement, la génération de ma grand-mère, c'était des sont sortis des pensionnats et tout, mais c'est aussi dans les années où est-ce que les réserves ont été bâties, je veux dire, à la fin des années 50.
Mais Samien, il y a quand même ceux qu'on voit, par exemple, dans la rue en ce moment, qui ont le mal de se retrouver tout seul ici. Il y a le mal de... Pas le mal des réserves, mais le mal, le fait qu'ils se retrouvent seuls alors qu'en réserve, ils étaient avec plusieurs personnes, faisaient des choses. Puis là, c'est vraiment la grande solitude. Elle est quand même présente, ce mal-là, ce mot.
En réserve, on vit en communauté.
C'est ça.
Il y a ta famille, il y a ton entourage et tout, mais il y a quand même un système qui existe, où est-ce qu'on est traité comme des enfants, où est-ce qu'on n'a pas d'autonomie, où est-ce qu'on n'a pas d'appartenance. On ne peut pas s'acheter une maison, on ne peut pas posséder de biens, on s'achète des voitures ou peu importe, mais nos maisons ne nous appartiendront jamais, en fait. Tout le monde, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui paye encore sa maison au conseil de bande, ça sera jamais sa maison à elle. C'est une réalité qui existe. Moi, je retournerai jamais vivre dans une communauté. Je vais y aller parce que par devoir, par responsabilité, parce que j'ai envie, parce que j'ai un message que je porte et je porte la cause vraiment à cœur. Mais c'est un mode de vie qui est pas fait pour un être humain, en fait. Mm-hmm. C'est des ghettos.
D'où la détresse.
Ben oui, en fait, c'est sûr que, bon, il y a l'histoire, tu sais, il y a plusieurs facteurs aussi, je veux dire, il y a l'histoire des pensionnats qui est une génération où est-ce que, tu sais, ma grand-mère, elle, qui est allée au pensionnat, mais elle, avant ça, là, ils vivaient en forêt, c'était des nomades. Mon arrière-grand-mère a toujours envie, elle va avoir 90 ans. Elle a vécu dans les tipis.
Votre grand-mère est encore en vie aussi?
On a 5 générations. Mon fils, moi, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.
C'est beau.
Oui, c'est rare.
C'est vraiment bien.
Et on est les 5 générations toujours vivantes. Et mon arrière-grand-mère, c'est ça. Elle était nomade. Elle a vécu en forêt. Ma grand-mère est née sur les rives de la rivière Arikana. Donc, c'est vraiment... on passe du Tipeee à mon fils qui joue au iPad.
C'est fou, là.
C'est incroyable dans le temps de génération vivante.
Ouais.
Mais eux autres ne consommaient pas, en fait. Ma grand-mère n'a jamais vu ses parents consommer avant que les réserves existent. C'est quand qu'il y a eu les réserves en 59, je crois. Écoute, je ne veux pas me tromper, mais dans la fin des années 50, que Picogan a été fondé, c'est là où est-ce que les gens commencent à consommer. Beaucoup. Ou est-ce parce qu'on interdisait, c'est ça?
C'est ça.
L'Indien allait en prison. Mon arrière-grand-père est allé en prison parce qu'il avait bu de l'alcool. La loi sur les Indiens est toujours en vigueur. C'est des choses qu'on ignore, en fait, au Québec, au Canada. Et puis, on n'en parle pas. Tu sais, oui, je comprends qu'on va parler du génocide, de l'Holocauste, du génocide arménien, tout ce qui se passe en ce moment, mais il y a un génocide ici qui est encore actif. Moi, c'est ce que je trouve le plus triste.
Il y a encore une grande injustice au niveau de l'histoire aussi.
Oui, qui est mal enseignée c'est mal transmis, je pense. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup... je faisais un truc la semaine dernière à la Place des Arts avec plein de jeunes des écoles secondaires qui venaient nous voir en spectacle là-bas. Puis c'était une sortie pour eux autres. Puis de raconter ça pour moi et de voir qu'il y a des profs d'histoire, qu'il y a des profs de français qui les accompagnent, puis qui sont comme aïe, aïe, ok. T'sais.
Oui, on le raconte pas assez.
On le dit pas ça dans les écoles. Puis...
Non, c'est ça. Il y a forcément des choses qui sont biffées, qui sont cachées, d'après ce que vous me dites. Donc vous, c'est un soulagement quand votre famille sort de la réserve et que vous avez 12 ans.
C'est sûr que c'est un choc au départ parce que c'est tout nouveau. On rentre vraiment dans une nouvelle vie. Mais j'ai appris tellement de choses. C'est là que j'ai commencé à écrire. C'est comme ça que Et quand j'ai commencé à écrire dans ces années-là, c'est là, je pense, que j'ai appris à me connaître et à savoir qui j'étais vraiment.
Et vous réapprenez votre langue. On revient tout de suite après parce que c'est très intéressant aussi. Votre langue maternelle, vous la perdez puis vous la retrouvez grâce à votre grand-mère. On a pris... sur nous, de prendre une chanson de chacun de vos albums.
Okay.
La première, c'est donc « La paix des braves », album 1, « Face à soi-même ». Alors, un petit mot peut-être sur cette chanson?
Ah, c'est une belle collaboration avec Loco Locas qu'on a eu la chance de faire. Et c'est une chanson qui, à la base, la philosophie, c'était vraiment de faire un pont entre les Premières Nations et le peuple québécois. Et puis, ça a été ma porte d'entrée aussi dans l'industrie de la musique, dans le monde musical et sur la place publique. Donc, ça a été pour moi, cette chanson-là reste... je remercie toujours le Colocas d'avoir fait ça pour moi puis d'avoir créé cette collaboration-là. Donc,
on l'écoute. Voilà.
Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack-sack pacifiquement sur l'année canard, en route au nord du Canada. Samian Okolokas, il était temps que l'union se fasse, qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser, on en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune, on est capable de rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. Hashtag Costa la connaît, on débarquera parce que cette année, on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama, we do it, we va, hey, j'ai Mashka, we ziak,
Mashka, we ziak,
yao, yago, yak,
yao, yago, yak,
et qui t'aime d'un ziak.
De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique. À cette époque pique, au pays du porc-épic, la maladie du scorbut, score est droit au but. Et c'est aux Premières Nations que je dois ma guérison. Raquette, canot, boucan, tisane et topagan. L'authentique autochtone enseigne à haut profane. La science de la savane, ça se soucie qu'en filigrane. La soutane mégalomane allait lui casser le crâne. Pour les Amérindiens en Amérique, il y a deux choix. soit on les abat comme au CETA, ou bien soit qu'on les réserve comme au Canada. Les réserves ou abat, le problème demeure le même, car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes. Ha, les visages pâles peuvent bien devenir blêmes. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait?
Allume le calume, mec, on fume pour la grande paix.
Hoche, ben, l'os, t'as la connu, on débarquera parce que cette année, on a décidé de se mixer parce qu'on a retouché l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Je m'excuse si je t'excise, tu meurs pas. Ou si oui, ta mort est exquise. Pas de taxes, on te plume pas. On te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac. J'appelle ça de la taxidermie.
La quoi?
Parle-en à René Dupuis-Morancy. Chris, l'ignorance crasse me laisse un goût ranci. Vite, faut que je me rince sous les chutes, Montmorency. Oui, maman, oui. Je me souviens que nous fûmes les premiers touristes dans ce pays qui paye à sa survie à rendre ses esprits qui ont le souffle court et nous les cœurs s'épris. Trop pris, tellement pris qu'ils sont farma pris. Ah ah, le karma crie, Algonquin, Innu, Atikamek du Québec. Si on allumait le calumet, qu'on fumait pour la grande paix.
Hoche, la grosse, elle a collé, on débarquera parce que cette année, on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Hoche, la grosse, elle a collé, on débarquera parce que cette année, on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones.
Mama, oui, tu es le Iba, et j'ai Mashka
Ouziak.
Mashka
Ouziak.
Yao,
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 yao.
Alors, quand vous écoutez justement cette belle langue, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion?
Ben, c'est toujours un plaisir, surtout que c'est ma grand-mère, tu sais, c'est ma grand-mère qu'on entend. Oui, oui, elle est venue au studio à Chafik, des locaux, justement, faire les voix de... C'est elle qui parle dans l'intro, c'est elle qui parle à la fin.
Une belle voix, hein?
Ouais, ça sonne tellement bien, puis à chaque fois, même en concert, je veux dire, à chaque fois qu'on la fait, je la fais évidemment à chaque concert, cette chanson-là, mais il y a toujours sa voix qui est là. Donc on l'a gravé à tout jamais. C'est juste ce petit message-là qui nous dit que soyons fiers, soyons forts et soyons, justement, soyons, levons-nous en fait, et soyons fiers de qui on est.
C'est ce que vous, c'est ce que vous avez fait, vous êtes levé.
Oui, exactement. Je pense que c'est on doit à un moment donné. On n'a pas le choix, peu importe, surtout dans le rap. Je veux dire, quand tu fais du rap, c'est une prise de position sociale.
C'est un engagement.
C'est un engagement politique, social. Le rap est né de cette façon-là. Et j'aime utiliser le rap de cette façon-là. J'aime pas le rap, justement, qu'on entend à la radio aujourd'hui, qui nous raconte n'importe quoi, qui est très misogyne, qui nous parle de luxure, qui nous parle de biens matériels, qui nous parle de tout ce qu'on n'a pas besoin, finalement.
Mais heureusement qu'il y a des artistes comme Grand Corps Malade qui...
Que j'aime bien, qui
raconte et qui est aussi engagé autant que vous. Alors, votre grand-mère, justement, elle est vraiment importante dans votre vie parce que quand vous partez, bon, vous apprenez la langue, vous la connaissez, mais après, vous la perdez, c'est normal. Hein? Ouais. Et elle vous réapprend.
À travers les textes.
La langue algonquine, à travers les textes.
Oui, j'écris en français. Je pense en français. À Pikogan, c'est évidemment, on nous enseigne le français à l'école. On a des cours d'algonquin. L'algonquin est quand même présent dans certaines familles, mais le français prend beaucoup de place dans notre communauté. Donc évidemment, oui, on apprenait l'algonquin. Je comprenais bien mon arrière-grand-mère qui ne parle pas français, en fait. Et voilà, par après, quand j'ai voulu faire une discussion avec Biz, justement, de Loco-Loca, c'est « Pourquoi tu rappes pas en algonquin? » Puis j'ai fait juste comme... Ben oui, pourquoi pas? Et je m'assois avec ma grand-mère et puis on a commencé à faire la traduction de mes textes. Et c'est comme ça, tranquillement, que je réapprenais la langue. Et surtout, je comprends, j'arrive à comprendre ça, beaucoup de discussions en algonquin, mais quand vient le temps de parler, c'est que j'arrive pas à conjuguer, c'est ça le problème. Je connais les mots, mais je sais pas comment les conjuguer. Fait que c'est
l'écrire.
Ça l'écrire, ça va. Mais c'est la conjugaison, c'est toutes ces choses-là où est-ce que j'ai beaucoup de misère, puis c'est là où est-ce que ma grand-mère intervient le plus. Puis c'est comme ça que je réapprends à dire certaines phrases et à les comprendre.
Et là où vous prenez le goût à l'écriture, ça vient à ce moment-là, vous avez envie d'écrire. Je sais que l'adolescence est marquée par des moments un petit peu délinquants, mais c'est un petit peu normal. Mais vous, est-ce que c'était vraiment fort, ça?
Non, écoute, j'ai eu j'ai eu plein de passes de temps de réflexion, je pense, à la fin de mon adolescence. Uh-huh. Le début de l'âge adulte, là, ça a été, j'ai fait des conneries que j'en ai parlé, tu sais, j'en ai parlé dans le premier album, tout ce qui s'était passé, puis non, je pense que c'est des leçons de vie, puis on apprend aussi avec nos erreurs, puis on apprend, je pense que tout mon vécu a fait l'homme que je suis aujourd'hui, évidemment. Mmh. Donc, je pense que il y a peut-être, c'est sûr que si je pouvais reculer dans le temps, il y a peut-être certaines choses que je ferais différemment, mais en même temps,
ça fait vous.
Ça fait partie de mon histoire et puis ça a forgé mon identité. Ouais.
Alors, il y a une rencontre extrêmement importante. C'est en 2004 avec Manon Barbeau et son projet de Wapikoni Mobile.
Ouais.
Et c'est là, vraiment, on a l'impression qu'elle vous sauve la vie. C'est la première qui vous trouve un talent extraordinaire et qui vous fait confiance. Hein, ça prend une bonne étoile. J'ai l'impression qu'elle a été votre étoile. Elle vous a fait confiance. Et c'est comme ça qu'on vous a connu.
Oui, ça a vraiment commencé à Picogan en 2004. Justement, j'habitais un peu partout à mon adolescence. Et je suis retourné chez moi. Et c'est là que Wapikoni est arrivé. J'ai vu un communiqué passer, puis ça me disait, bon, la roulotte s'en vient, un studio d'enregistrement. Et bon, je rêvais de faire de la musique, en fait. Et Manon, toute l'équipe, Heads Up Avency était là. Il y avait toute l'équipe technique qui était dans la roulotte. Et puis, je suis le premier qui est vraiment rentré dans cette roulotte-là pour enregistrer mes premiers textes de rap. Et puis, suite à tout ça, écoute, c'est tellement mauvais là, pour moi. Je réécoute ça, puis je suis comme, aïe, mais on a tous nos débuts. Mais Manon, justement, croyait en mon potentiel. Elle était comme, on tient quelque chose. C'était, je sais pas, c'est dur à dire pour moi, mais je pense que l'équipe qui était là cette fois-là a vraiment cru en moi, comme jamais on me l'avait dit, tu sais. On m'avait jamais dit ces choses-là, on m'avait jamais... C'est peut-être ça aussi, un des problèmes dans les communautés, c'est qu'on valorise pas les enfants.
Ah non?
Ils sont pas très valorisés, ils sont on sont beaucoup laissés à eux-mêmes, tu sais. Il y a beaucoup de ça, où est-ce que... Et c'est ça, je pense qu'on oublie souvent de leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, qu'ils ont du talent, et de l'exploiter, mais je pense que c'est un manque. C'est pas général, mais ça existe beaucoup. Et on m'avait jamais parlé vraiment de ça. Puis Manon l'a fait. Et puis ça a été pour moi, je l'ai toujours dit, ça a été ma naissance artistique, si on peut dire ça comme ça.
Oui. Mais il y avait la plume quand même avant. Il y a eu un peu d'écriture avant.
Oui, j'écrivais depuis quelques années déjà. Puis, oui. Mais je m'étais jamais entendu encore. J'avais jamais entendu ma voix dans un micro, c'est la première fois que je m'enregistrais en fait, sur des beats de Nas, de Eminem à l'époque, puis c'était vraiment comme la première fois que j'entendais ma voix, puis j'ai fait comme wow, ok, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai vraiment appris sur le tas en studio. Puis
si on retourne 10 ans en arrière, qu'est-ce que vous aviez envie de dire quand, justement dans cette période-là, qu'est-ce que vous aviez envie qu'on sache?
Oh, c'était tellement pêle-mêle, en fait. C'était un mélange de toute ma vie. C'était tellement de haine, tellement de rage, tellement de... C'était pas... c'est pas comme aujourd'hui quand j'aborde un sujet. Non, c'était un mélange de toutes sortes d'émotions. Tu sais, je me souvenais que mon père avait déjà lu mes textes à cette époque-là, puis il m'avait dit « Ah, ça marchera jamais. C'est pas bon. » J'étais pas Et je voulais tellement le défier, tu sais. J'étais comme, un jour, moi, prouver le contraire, oui, moi, tu sais. Ça me motivait, en fait, des affaires comme ça. Fait que non, j'ai c'est un mélange de toutes mes émotions mélangées ensemble que je crachais, en fait. C'est tout. J'avais pas de... Pour moi, c'était pas engagé, c'était pas... c'était vraiment... Je garochais tout, là. Ouais.
Puis vous partez jeune, à 15 ans, vous partez de chez vous, là. Ouais. C'est
ouais,
jeune?
15 ans. Ben, j'avais lâché l'école, voilà. Et puis ma mère qui m'avait dit, tu veux lâcher l'école, tu veux être autonome, je t'ouvre la porte. Et voilà, je suis parti vivre à Drummondville, que je lavais de la vaisselle dans les restaurants. Et je travaillais au salaire minimum, et puis ça a été comme ça pendant des années, là, après ça. Là. J'ai travaillé dans des... j'ai commencé de même, mais après ça, j'ai travaillé dans des restos, j'ai commencé à être cuisinier, puis tout. Ça, j'aimais vraiment ça, par exemple. C'est une belle période de ma vie, quand même, mais je voulais m'enligner là-dedans, si ça marchait pas en musique, ou peu importe, c'était le métier que j'aurais probablement choisi. Mais non, ça a été ça. J'ai décidé de lâcher l'école, et ma mère a ouvert la porte, et m'a... Tu veux être autonome, mais vole de tes propres ailes. T'sais. Et j'étais vraiment jeune, et puis j'ai appris à être responsable, ouais, quand même assez jeune.
Oui. Alors, Samiane, la prochaine chanson, album 2, Face à la musique, Peuple invisible. Quelques mots sur cette chanson?
Ah, c'est un peu une réponse à Richard Desjardins qui avait sorti le film Le Peuple... En fait, la chanson, c'est « Peuple invincible ».
Pardon, j'ai fait...
Non, ça va. Ça arrive à tout le monde.
Oui,
et c'était une réponse au film de Desjardins, de son film « Peuple invisible ». Donc, ouais. Pour moi, c'était le jeu de mots.
J'ai fait l'amalgame, là.
Exact. Mais pour moi, la réponse, c'était non. On est un peuple invincible. Mm. On est encore là. C'est vrai qu'on fait dur. C'est vrai que la situation est difficile, mais on existe. Et il y a des gens qui vont le prouver, en fait.
On écoute.
Capable de cesser de crier ce qui est injuste. Regarde notre réalité et les mensonges qu'on nous incruste. N'ai pas la force de comprendre toute cette discrimination. J'ai la force et le courage de crier pour ma nation. Il est temps qu'on avance, qu'on se rassemble pour la cause. Qu'on arrête de se détruire par l'alcool et la coke. Qu'on leur prouve qu'on est des hommes, qu'on est fiers de qui on est. S'ils nous traitent de sauvages, on s'en fout, on est des guerriers. On n'a pas encore saisi toute leur mentalité. Car pour vous dire la vérité, ils ont essayé de nous déraciner. Ce que je trouve le plus lourd, c'est le visage des aînés. Ceux qui portent l'histoire et l'espoir des nouveaux-nés. Je viens briser le silence, la honte et la gêne d'un peuple invisible.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, Samiane, rappeur et porte-parole du Wapikoni Mobile, est avec nous en studio. Donc, on parlait des moments où, à 15 ans, vous habitiez tout seul et puis finalement, ça s'est bien passé. La carrière débute grâce à cette belle aventure du Wapikoni Mobile. Premier disque enregistré aussi, vraiment superbe. Un album qui vend énormément. La surprise à ce moment-là, est-ce que vous êtes surpris?
Vraiment, écoute, je m'attendais à rien. Quand j'ai eu avec Steve Jolin, qui est le producteur de l'album, qui était rappeur, beaucoup plus, il rappait beaucoup plus à l'époque, sous le nom de Another J, puis on a eu une discussion, et puis on était comme, OK, on parlait d'un contrat de disque. Et on se disait comme, OK, dans le monde du rap au Québec, c'est difficile, puis si tu réussis à vendre 1000 albums, ça va être bon, puis finalement... On s'est retourné de bord, puis on avait vendu, je pense, on était au-dessus de 12 000 albums, puis on était comme, ben, wow, OK, ça a été... pour le monde du rap, c'est une grande victoire, tu sais, je veux dire, ça a été un succès, mais je sais pas, c'est ce qui m'a permis de me mettre au monde, dans le monde musical, finalement. Puis ça a été ma première carte de visite, si on peut dire ça comme ça. Mais on est dit, ouais, j'étais le premier surpris du succès que l'album a eu. Mais tout ça était une question de timing aussi. Le film de Desjardins, où est-ce qu'on en parlait beaucoup? Mon album sortait 2 semaines après. Puis tu sais, Desjardins qui vient parler des Algonquins, c'était déjà... c'était une époque, je pense, en 2006-2007, c'était, on parlait pas beaucoup des Autochtones encore au Québec. Et je pense que ce film-là est arrivé, puis on s'est mis à parler des Algonquins. On s'est mis à se poser des questions au Québec. Et mon album est sorti dans un contexte où est-ce qu'on parle, où est-ce que, médiatiquement parlant, on parlait des Autochtones. Et là, pouf, arrive un rappeur amérindien. Fait que pour moi, je pense que le timing était parfait, excellent, pour sortir l'album. Fait que voilà, c'est peut-être ce qui a créé un engouement autour du projet.
Né Samuel Tremblay.
Mm-hmm. Ouais.
Quand est-ce qu'on décide de changer son nom?
J'ai pas décidé de changer mon nom. C'est que ma professeure d'Algonquin, quand j'étais à l'école primaire à Picogal, à un moment donné, elle me présentait sur une scène à Amos. Je faisais un concert, une prestation plutôt. Et elle me présentait sous le nom de Samuel. Parce que Samuel, c'est Samuel en Algonquin. Parce que nous, on a 13 lettres dans notre alphabet. Et Samuel se dit pas. Donc, au lieu de dire Samuel, on dit Samuel. Et j'avais un oncle aussi, le frère de ma grand-mère, qui s'appelait Samuel, l'aîné de la famille. Et elle m'a présenté comme ça. Elle m'a appelé Samuel parce qu'elle voulait pas dire Samuel. Donc, c'était en algonquin. Et je suis monté sur scène et j'ai fait, ben oui, Samuel. Et c'est mon nom, finalement. Et c'est resté. C'est resté mon nom de scène.
Quelle est la différence entre Samuel et Samuel?
Aucune. Je pense que les gens me connaissent sous le nom de Samian parce que c'est mon nom en langue en algonquin, mais Samuel est mon prénom de naissance. C'est seulement la traduction. C'est ma grand-mère m'appelle Samian, ma mère m'appelle Samuel. Pour moi, il y a pas de ce que je suis sur scène et ce que je suis derrière la scène, c'est la même personne.
C'est la même personne.
Ouais.
Votre père était québécois et mère algonquine.
Oui.
Souvent, on se dit, bon, on va prendre un des deux parents et on va se sentir plus. Et vous, vos racines, on sent qu'elles sont allées du côté de votre mère,
ouais,
complètement.
Oui, je suis très, très, très proche. La famille de ma mère, on est extrêmement proche. On est une famille très serrée, très, très, très... vraiment, vraiment proche. Du côté de mon père, il y a peut-être eu plus d'éloignement dans cette famille-là. Je veux dire, je sentais pas que c'était une famille comme unie. Beaucoup moins que je le sentais du côté de ma mère. Mais mon identité s'est beaucoup plus formée de ce côté-là.
Donc vous êtes plus algonquin? Vous sentez-vous plus algonquin?
Je me sens... Peut-être une partie de ma vie, oui, mais en même temps, je me sens tellement humain. Je me sens tellement... Je crois que je suis ni la moitié d'un, ni la moitié de l'autre, mais je suis un tout. T'sais. Ces deux cultures-là font moi, finalement, ma personne. Puis je suis métisse, je suis un enfant de la terre. C'est comme ça que j'ai appelé mon dernier album.
Mon dernier album, oui. Un enfant de la terre qui... Vous avez dit, je suis humain. On a pu voir votre humanité parce que votre père est tombé malade du cancer.
Ouais, ouais.
Et vous en êtes beaucoup, beaucoup occupé.
Ouais.
Ça a été un moment difficile, tellement que après vous avez été vous-même malade.
Ouais, j'ai... Non, en fait...
Burnout, c'est arrivé comment, le burnout? Après la maladie de votre père ou...
Au départ, quand j'ai retrouvé mon père au coin de la rue Saint-Denis et Maisonneuve. Sainte-Catherine, Saint-Denis-Sainte-Catherine. Et je l'ai retrouvé, il était itinérant. C'est le premier... ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Puis premier contact, j'arrivais d'un meeting. Super de bonnes nouvelles, belle journée. Puis je suis stationné à la lumière et je vois mon père itinérant. Et on s'est croisé du regard et ça l'a créé une espèce de... ça a changé ma vision que j'avais de lui. Mon père était alcoolique, il était très, très, très malade. Puis j'acceptais pas cette maladie-là. J'avais honte de lui, j'avais, il était très désagréable, c'était un alcoolique et pas le fun non plus. Mm-hmm. Il y en a qui sont drôles, tu sais. Souvent c'est des mononcles, mais quand c'est ton père, c'est pas pareil. Et puis je l'ai souvent, pas renié, mais presque, ouais, quasiment renié, je voulais pas le voir, j'étais comme, appelle-moi jamais quand t'es sous. Il m'appelait des fois le matin, t'es sous, puis j'étais comme, fais pas ça, donc il m'appelait pas. Il choisissait souvent ça, mais ça a peu d'importance pour moi aujourd'hui tout ça, parce que quand j'ai retrouvé mon père là, par après, je me suis rapproché de lui. Et il était malade. Il avait une hépatite. On ne savait pas ce qu'il y avait, en fait. Et à un moment donné, encore une fois, je ne le retrouvais plus de nouvelles de lui. Puis je l'ai retrouvé à l'hôpital. J'ai fait le tour des hôpitaux à Montréal et je l'ai retrouvé sur un lit d'hôpital, à l'hôpital Saint-Luc. Et là, il y avait une pneumonie. Et j'étais en tournée. J'avais fait une tournée d'une trentaine de spectacles en à peine 19 jours. Donc, c'était trois spectacles par jour à telle place. En Ontario, on faisait deux concerts par jour, Manitoba. Et après, on était allé en France. On est revenu vers la Saskatchewan. Donc, pour moi, physiquement, cette tournée-là m'a littéralement mis à terre. Et j'ai eu un effondrement physique, psychologique, émotionnel avec mon père et spirituel. Tous ces quatre aspects-là qui sont mes piliers, finalement, qui sont les piliers humains, ont flanché. Et après tout ça, malgré tout ça, j'ai appris le cancer de mon père. Donc, j'étais moi-même dans une période où j'avais extrêmement besoin d'aide. J'ai appelé mon gérant cette journée-là et puis j'ai dit « j'arrête tout ». Le calendrier n'existe plus, je ne fais plus rien, je ne suis plus capable. Et j'ai paralysé du côté gauche. En lui disant ça. Et c'est là que je suis rentré à l'hôpital et puis qu'on m'a dit que... Moi, au début, je pensais que je faisais une crise cardiaque. Je ne sentais plus mon bras gauche et mon cœur palpitait.
Donc, il y a eu une paralysie qui s'est installée.
Et là, j'ai appelé l'ambulance. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était une crise de panique. Je connaissais pas ça avant. J'en entendais parler du monde qui faisait de l'anxiété ou des trucs comme ça.
Donc le corps, il lançait des alarmes.
Ah oh, oui, ça a été la journée... C'est la journée que j'ai pris la décision de tout arrêter. J'arrivais de ces 30 concerts-là en quelques jours, puis j'étais exténué. Puis, j'en ris aujourd'hui, mais je pars en ambulance, j'arrive à l'hôpital, il me dit « Garde, nous, on peut rien faire pour toi. » On a fait des tests pour mon cœur, on a fait des tests biologiques. Il m'a dit, t'es pas malade biologiquement. Il dit, c'est dans ta tête. Fait que c'est pas le fun de se faire dire ça, tu sais, sur un lit d'hôpital. Puis après ça, on me dit, mon père m'appelle sur mon cellulaire parce qu'il avait congé à l'hôpital. Il me dit, OK, tu peux venir me chercher. Mais là, on se retrouvait.
Papa, viens me chercher plutôt.
Exact. Là, on se retrouvait les deux sur un lit d'hôpital dans la même journée. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est dans ces journées-là que j'ai appris son cancer et tout. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je devais, mais aussi parce que des fois la vie t'envoie des signes. Et puis j'ai pris des mois avec lui, il est venu vivre chez moi. Et malgré les crises d'anxiété, malgré les crises de panique, ben voilà, fallait que je m'occupe de lui. Que je le suive de près parce qu'il y avait des métastases au cerveau à un moment donné, donc il perdait l'équilibre, il tombait, il fallait que littéralement derrière lui. Là.
Alors, s'il ne vous a pas accompagné dans votre vie, vous l'avez accompagné dans la mort?
Oui, exact. J'ai jamais eu autant de colère dans cette période-là de toute ma vie parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Par instinct, j'ai dû m'occuper de lui. Je me suis occupé de lui. Par amour aussi. C'était pas... Et c'est comme ça que j'ai appris à le pardonner, à l'aimer et à comprendre l'itinérance à Montréal. Quand je vois les itinérants aujourd'hui, tout est différent. Quand mon père était malade, je me souviens qu'il était chez moi puis il regardait souvent dehors. Puis quand il faisait froid ou quand il pleuvait, la première pensée qu'il avait, c'était ceux qui étaient dehors. T'sais. Ça me touchait à chaque fois de l'entendre dire ça. Et puis mon père souhaitait guérir et aider les autres. Et quand mon père est mort, mais à tous les dimanches, j'allais avec mon fils au centre-ville de Montréal acheter de la nourriture pour donner ça à des itinérants. Puis c'était ma façon de lui dire salut une fois par semaine, puis de faire ce que lui aurait aimé faire finalement.
Alors, on fait une pause musicale. On reste avec vous.
Hein, oui, oui,
parce qu'on reste avec vous, mais en musique cette fois. Et troisième album, Enfants de la Terre, Les Miens, ça tombe bien parce qu'on parle des vôtres.
Ouais.
Peut-être une phrase là-dessus?
Les Miens, c'est du rap and roll. C'est tout ce que j'ai à dire.
J'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai plus d'une corde dans mon nappe. Y'a des soirs, on débarque, j'rappe, on pète la baraque avec le Ben, avec nos fans. Dans le fin fond des réserves, les plus res. Damn, c'est pour l'amour du hip-hop, c'est pour les fans qui me supportent, c'est pour ceux qui comprennent le message que je porte. On est peu nombreux, mais si courageux, le poing dans les airs. J'lâche pas le combat, moi j'fonce dans le tas comme un soldat. Ici bas j'ai un mandat, passe à pas sur mon chemin de croix. Mis à part, ce n'est pas mon choix. Quand j'rappe, j'éclenche des débats. Et j'retourne aussi loin qu'à l'époque des Incas. Pas besoin de te répéter que le monde est ingrat. On a donné un rôle sur du rap and roll. J'porte un fardeau d'un role model. C'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people.
On a donné un rôle sur du rap and roll. J'porte un fardeau. Ma plume est déguisée, je rappe pas pour me valoriser, ni pour rivaliser, je rappe pour m'immortaliser. J'ai pris conscience de la portée de ma voix. Mon rap parfois frappe, laisse des coups d'éclat. Je déteste les rappeurs qui racontent du charabia. Moi je prône le changement, je rêve d'un coup d'état à contre-courant. J'avance à contre-sens, je viens faire taire les ignorants qui se taisent en ma présence. Je suis au sommet de ma forme, je te parle comme un homme. 7ème ciel record, y'a un rappeur autochtone. Et ça vient du fond du cœur, les discours que je révèle. Et c'est à cœur ouvert que les miens se relèvent. On est parti de rien, on revient de loin. Je me suis remis à l'écriture pour venir faire le point. All I need is one mic, comme Nash, prends le mic, comme d'hab. Troisième album sur la table.
On va donner un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau. Role model, c'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people. My people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau. The role model, c'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people.
Je regarde autour de moi et ça m'arrive de m'enrager. Mais je viens dénoncer, t'es le rappeur engagé. Je suis fidèle à moi-même, je prétends pas à triompher. Je rappe à cœur ouvert, avec ou sans trophée. Je sais que mon rap dérange, mais qu'est-ce que tu veux, ça me démange. Je le fais pour les miens, j'ai une cause à défendre. Et je fais pas l'unanimité, j'ai trop d'humilité. Je suis prêt à militer pour les miens, l'humanité. Je me tiens debout, je prête à prendre des coups. Je me dévoue à mon art avec des mots qui peuvent te faire perdre le pouls. Je ne change pas, j'évolue mes mots, ont du contenu mes mots, ont du vécu. Chaque fois tu rap de fendu, regarde où je suis rendu, c'est sans prétention. On a fait le tour du monde, transporté par le son. Et j'en présente toujours les miens, malgré moi c'est mon rôle. Yo,
I make music for my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau, d'un role model. C'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau, d'un role model. C'est pour les miens, les miens.
My people, my people. I'm making music for my people.
En compagnie de Samian, on vient de l'entendre justement, dernier album, l'émission Ces gens qui font la différence. Un artiste engagé qui nous parle de la cohabitation blanc-autochtone, la négligence du gouvernement, hein, et on peut dire aussi l'indifférence d'une partie de la population. Est-ce que c'est toujours ça, ce que vous trouvez que les Autochtones sont encore mis de côté?
Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je pense qu'on est plus conscient de ce qui se passe. On en parle un peu plus. C'est sûr que ça va pas à une vitesse exemplaire. Là, c'est pas... Il y a tellement de pays qu'on pourrait... Où est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple? Tu sais, je suis allé à New York l'année passée pour l'instance permanente sur les questions autochtones à l'ONU. Et t'as 1500 représentants autochtones à travers le monde qui viennent parler de leur situation. Et tu réalises que la situation autochtone au Canada, oui, ça fait dur. Mais il y a des places dans le monde où est-ce que c'est pire. Et il y a des places dans le monde où est-ce que ça va 100 fois mieux, qu'il faudrait prendre exemple, tu sais. Comme la Bolivie, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande. Tu sais, il y a des places qui sont marquantes où est-ce que, en Nouvelle-Zélande, par exemple, les Blancs, si je peux dire ça comme ça, apprennent leur langue maori, apprennent le haka, font la danse traditionnelle, et les Maoris sont impliqués socialement, sont au Parlement, c'est des députés, c'est des gens, c'est deux peuples qui prennent
qui sont ensemble, quoi.
Qui sont ensemble, ouais. qui prennent des décisions concrètes.
C'est pas deux solitudes comme on a
exact,
ici.
Exact, et qui prennent des décisions concrètes pour l'avenir de leur pays. Alors qu'ici, déjà, anglophone, francophone, ça va pas trop bien, et là, on tombe avec un troisième peuple qui veut aussi une autonomie. Alors, on est trois à se battre, à vouloir notre autonomie, au lieu de réaliser qu'on a tellement plus en commun et apprendre de l'autre.
De mettre ensemble.
De vivre ensemble.
Ouais.
Et c'est peut-être là, le problème. On est toujours en train de vouloir, wow, tu sais, ouais, mais nous, c'est comme ça, nous, on veut être. Non, je veux dire, je pense que je demande pas, je ferai pas un discours où est-ce que je demanderais aux Québécois de vouloir toujours apprendre l'histoire des Premières Nations. Je pense que c'est des deux côtés. Oui, les Québécois ont le devoir de connaître les racines parce que nous, on est les racines de notre pays.
Mm-hmm.
On est les racines du Canada, du Québec.
Mm-hmm.
Et des fois, ça fait du bien de retourner à ses racines, tu sais, pour connaître qui tu es. Mais je demanderais aussi aux Premières Nations de s'intégrer à la société québécoise parce qu'on est en 2015.
Ils tendent pas assez la main?
Je sais pas. Comment... C'est difficile. La situation est délicate. Je veux dire, ça va pas se faire du jour au lendemain non plus. T'sais, on sait que oui, ça évolue pas vite, mais on dépend d'un gouvernement depuis tellement longtemps que si on enlève ça du jour au lendemain, ça risque d'être un choc. Là. Ça risque d'être trop brusque, mais peut-être trouver une façon de vivre ensemble.
De vivre ensemble.
Qu'on n'a pas encore trouvé.
Et c'est pas sur les réserves qu'on le trouvera.
Non. Je pense qu'il faut premièrement les abolir et vivre ensemble. Ouais.
Alors après, on a vu dans votre histoire qu'après le décès de votre père, ça a été même presque en même temps le burn-out. Un an de vous retirer complètement des tournages de télé, de la tournée. Et vous rentrez dans une spiritualité. Il y a un nouveau Saman qui naît, où vous étiez toujours spirituel. Il y a la religion qui est importante pour vous, la spiritualité qui grandit à partir de ce moment-là. Comment ça va?
La spiritualité et non la religion. La religion et la spiritualité ne sont pas compatibles, en fait. Je ne crois pas. Je crois que la religion, c'est de la politique. Moi, je mets ça de côté. Ça ne fait pas partie de ma vie. J'ai grandi à... J'ai une famille très, très, très spirituelle. Oui, ça a toujours fait partie de ma vie. On est une famille chrétienne. On est une famille... même aujourd'hui, je vais à l'église à tous les dimanches. Mais je vais dans une église plutôt alternative. Les églises chrétiennes et la philosophie chrétienne est très proche de celle des Premières Nations.
C'est ce que j'aime. Vous lisez la Bible aussi,
mais
vous l'apprenez plus du côté, pas religieux, mais plus du côté spirituel.
Oui, parce qu'on ne t'enseigne pas la religion dans la Bible. On ne t'enseigne pas il n'y a rien de religieux dans tout ça. C'est pas... c'est tellement tabou, hein. Je veux dire, quand on pense spiritualité, on pense religion. Mais c'est parce qu'au Québec, on a mélangé un jour religion et politique. Ce qui a foutu le bordel ici, là. C'est devenu de la dictature, c'est devenu... et c'était fait sous le nom du gouvernement, mais c'était fait sous le nom de l'Église.
Ah oui, mais vous en savez quelque chose, hein, les orphelinats et tout, là, c'était sous le nom de l'Église aussi.
Exactement.
Là.
Donc, je peux comprendre ce recul-là, et on est probablement un des seuls parties du monde qui blasphème tellement. Où est-ce qu'on s'en moque de Dieu? Où est-ce que tout ça est tellement tabou? Tu sais, je voyage beaucoup à travers le monde, puis soit pour faire de la photo ou soit pour aller faire des concerts, puis je réalise à quel point les gens ont un énorme respect pour Dieu, peu importe leur religion, peu importe leur... ici, on a... C'est tabou. C'est très tabou. On parle pas de Dieu. On parle pas de Jésus. On parle pas de... C'est tout, toute cette histoire-là est mal interprétée. Je crois que la Bible au Québec est mal interprétée, a été mal interprétée. A été fait... Il y a des prêtres à une certaine époque qui ont ouvert la Bible et en ont fait de la dictature. Et c'est dégueulasse.
Il y a encore des plaies qui sont ouvertes à ce niveau-là.
C'est clair. Et je pense que qu'on se doit... C'est libre à chacun. Moi, j'étudie la Bible d'une façon où est-ce que ça... moi, je crois qu'il faut nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il faut prendre soin de soi, protéger ses relations humaines et nourrir son esprit aussi. Fait que c'est les sphères de ma vie que je néglige pas.
Samian, le temps nous fait la guerre. Je veux absolument, avant qu'on aille dans le jeu questionnaire, que vous parliez des projets, parce qu'il y en a un qui est très intéressant. Votre premier livre, La plume d'aigle de poésie, vous allez pouvoir en parler beaucoup. Vous partez en Haïti.
Ouais, je pars en Haïti le 6 mai prochain, justement pour les nuits de la poésie amérindienne. C'est Mémoire d'Encrier qui organise tout ça. Et puis, en fait, c'est drôle parce qu'on m'a invité en tant qu'auteur pour aller là-bas parce que j'écris quand même, mais j'avais pas de livre. J'étais le seul de la gang dans les 50, une cinquantaine d'auteurs qui se réunissent en Haïti, et j'étais le seul qui n'avait pas de livre. Donc, Mémoire d'Encrier a eu l'idée de publier mes textes. Et j'ai eu la chance de faire une sélection de mes trois albums pour mettre dans un recueil de poésie. Donc, en fait, on m'a offert un livre et un voyage en Haïti pour le mois de mai. Puis...
Quelles sont vos attentes?
J'ai zéro attente parce que tout ça est arrivé comme un cadeau. Un cadeau de la vie, point. Comme le cinéma. J'ai fait du cinéma. Il y a un livre qui est sorti. Je vais faire des tournées de salon du livre, des trucs comme ça. Puis c'est super cool. Tant que je m'amuse, moi, je veux dire, je suis heureux. Puis je trouve ça léger, en fait. Le livre s'appelle Plume d'aigle et je pense que je vais voyager avec cette légèreté-là aussi, avec ce petit livre-là qui est seulement une partie de moi. Puis... Et ça nous rend libres de pouvoir s'exprimer à travers les mots. C'est le fun de mettre ça en littérature parce que les gens qui nous connaissent en musique, probablement, qui vont peut-être s'intéresser à ce recueil-là, et ceux qui vont découvrir le recueil de poésie vont probablement s'intéresser à notre musique. Et donc, ça va être donnant-donnant. Puis c'est,
les mots qui voyagent. Quoi.
Les mots qui voyagent, voilà, exactement.
Alors, on fait une petite pause et on revient avec le jeu questionnaire de la fin de l'émission. Samian, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.
Vos mentors?
J'ai pas eu de mentor. C'est spécial, mais non, j'ai pas eu de mentor, non.
Les livres que vous nous recommandez?
Le Nouveau Testament. Ouais.
Les artistes que vous aimez?
Common... Mos Def, Talib Kweli, Tupac, des grands poètes.
Les villes que vous aimez?
Vancouver, Ubud, à Bali. Aïe, 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 il y a tellement de places. New York. Oui, voilà.
Merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. Samian, on vous connaît davantage. On vous a découvert à travers les mots et à travers votre humanité. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous autres.
Et merci à mon équipe, à la réalisation de l'émission Jean-Sébastien Laliberté, recherche Christiane Campagna, aux médias sociaux Kevin Breton. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.